Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM. Extrêmement heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Une émission consacrée à un art si particulier, celui de la musique de film, qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur les grands écrans ou ailleurs depuis maintenant largement plus d'un siècle. Ce jour, eh bien, nous allons évoquer bien brièvement, hélas, la carrière d'une de nos actrices les plus discrètes et de l'une de nos actrices les plus brillantes. Quand je dis nous, c'est pas qu'elle m'appartient, c'est juste qu'elle est en française, puisqu'il s'agit de Juliette Binoche, née le 9 mars... quelque part dans les années 60, ça ne se fait pas, de donner l'âge des dames à Paris. Son père est mime, metteur en scène et sculpteur, et sa mère est comédienne, autant dire que, et sa sœur deviendra une photographe de plateau des plus réputées, autant dire que dès son plus jeune âge, Juliette Binoche, c'est a priori son vrai nom, baigne dans la culture et dans l'art dramatique, puisqu'elle débute à 17 ans au conservatoire et commence par jouer dans quelques pièces de théâtre, des publicités télévisées, avant de commencer à tourner au cinéma en 1983 pour un film de Pascal Canet qui s'appelait et qui s'appelle toujours Liberty Belle. J'avoue que je ne l'ai pas vu. Ensuite suivent quelques opus peut-être moins remarqués. Et puis en 1985, la première rencontre, pas forcément la plus décisive, mais en tout cas intéressante, celle de Jean-Luc Godard, qui lui confie le rôle de Juliette. Ce n'est guère vraiment original dans le « Je vous salue, Marie » des plus controversés. Ensuite, quelques films de moins bonne tenue, desquels on peut malgré tout retenir Le Rendez-vous d'André Téchiné, tourné en 1985, et en 1986, la première rencontre artistique vraiment importante pour Juliette Binoche, en l'espèce celle de Léo Scarrax, qui deviendra accessoirement, si l'on veut, son compagnon pendant quelques années sur le tournage du second film du dit Léo Scarrax, qui s'appelait Mauvais sang. Léo Scarrax, qui s'était fait remarquer 2 ans auparavant avec Boy Meets Girl, un titre des plus simplissimes pour un film en noir et blanc, effectivement tout à fait original, qui avait obtenu là au Festival de Cannes de 1984 un grand succès. 2 ans plus tard, eh bien, Léo Scarrax se retrouve aux commandes d'une production un peu plus importante qui s'appelle Mauvais sang, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, dans lequel on retrouve Juliette Binoche avec à ses côtés Michel Piccoli, Julie Delpy, Hugo Pratt, mais oui, le créateur de Corto Maltese en était, ainsi que Serge Reggiani. C'est dire la variété de la distribution, et puis surtout, on retrouvait dans le rôle principal celui qui va devenir, et qui l'est toujours, l'alter ego de Léo Scarrax, alias le à l'époque jeune Denis Lavant. C'est même assez fascinant de voir sur la photo que j'ai devant les yeux Denis Lavant 30 ans avant. Et voilà, maintenant il est autrement, c'est peu de le dire. On va écouter un extrait de cette bande originale, alors qui n'est pas composée par un compositeur de musique de film, puisqu'on y côtoyait Benjamin Britten, Prokofiev et même Charles Chaplin. Mais c'est quelqu'un de tout à fait différent que nous avons sélectionné pour vous. Je vous le laisse découvrir, un extrait de la bande originale de Mauvais sang dans 24 notes secondes.
I catch a paper boy with it.
ça me rappelle le dialogue des deux blondes. Tu l'aimes, David ? Beau, oui ? Et oui, c'était bien David Bowie, c'était Modern Love, vous l'avez sans doute reconnu, un extrait de la bande originale de Mauvais Sang, un film de Léos Carax tourné en 1986 dans le cadre de notre hommage, même si le mot est bien grand, à la délicieuse Juliette Binoche qui trouvait là un des premiers grands rôles de sa carrière. Dès l'année suivante, ou plutôt deux ans après, elle en trouvera un second en amorçant une carrière internationale puisque c'est quand même une des rares actrices françaises à pouvoir tourner dans des films étrangers et notamment anglo-saxons, autre chose que les françaises de service. Et on la vit donc en 1988 dans l'adaptation à l'écran par Philippe Kaufman de The Unbearable Lightness of Being, je l'adore le dire en anglais, L'insoutenable légèreté de l'être en français, le grand roman du grand Milan Kundera avec à ses côtés, aux côtés de Juliette Binoche, rien moins que l'immense Daniel Day-Lewis, peut-être un peu moins connu et un peu moins immense qu'il ne l'est devenu. En tout cas, pour Juliette Binoche, le début d'une carrière américaine. On y reviendra, juste égrenons dans l'ordre chronologique, pardonnez-moi, quelques-uns des films qu'elle tourna ensuite. On ne peut pas, ici à Montpellier, ne pas citer Les Amants du Pont-Neuf, tourné en 1991, quelque part dans la région, et qui fut à la fois un naufrage financier pour son producteur et sentimental pour Juliette Binoche, qui quitta pendant le tournage de ce film Léos Carax. Ma foi, ensuite, elle se rattrapa, puisqu'on la vit en 1992 dans le rôle principal du très glacé et glaçant Fatal de Louis Malle. Et puis, surtout, en 1993, eh bien, Juliette Binoche fut l'héroïne principale du premier volet de la trilogie de Christophe Kieslowski consacrée à notre devise bien-aimée, liberté, égalité, fraternité. Au cinéma, ça donnait trois couleurs bleues, trois couleurs blancs, trois couleurs rouges et en l'espèce trois couleurs bleues tournées en 1993. Eh bien, c'était une histoire de deuil et de rédemption, de tristesse et d'amour, de solitude et de rencontre. Un film absolument magistral pour un réalisateur, à mon sens, sous-estimé depuis, oublié depuis sa mort tragique et prématurée, Christophe Kieslowski, qui avait su s'approprier, je dirais, une culture française, alors que ce n'était pas forcément évident. Et dans ce film, Juliette Binoche jouait le rôle de Julie Vignon de Courcy. Elle y était absolument éblouissante. D'ailleurs, me semble-t-il, elle obtint cette année-là le César de la meilleure actrice. Et il est bien dommage que cette année-là, eh bien, Zbigniew Preissner, le compositeur de la musique de ce film, comme de beaucoup de celles de Christophe Kieslowski, c'est un peu difficile, n'obtint pas lui non plus le César, puisqu'il composa pour l'occasion une partition absolument magnifique. Il faut dire que la musique dans ce film même, en tant qu'argument dramatique, avait un très grand rôle. Et pour l'occasion, Zbigniew Preissner composa le concerto pour l'unification de l'Europe que je vous propose d'écouter sans plus attendre dans 24 notes secondes.
pistevi panda el pisi panda ipomeni i agapiu de pote pipti i te de profitie catargi fisa.
Concerto pour l'unification de l'Europe, à vrai dire, on en reste sans voix après avoir écouté ça. S'il suffisait de la musique pour unifier l'Europe, ma foi, ce serait celle-là, un extrait de la bande originale de Trois couleurs bleues, une musique de Zbigniew Preissner, auquel il faudra bien consacrer une émission de 24 notes secondes, car il est l'un des compositeurs polonais les plus talentueux, et je pense cette musique, j'en reste sans voix, j'avoue. L'illustre à merveille pour notre hommage à Juliette Binoche qui tournait donc dans ce film Trois couleurs bleues, le premier opus d'une trilogie réalisée par Krzysztof Kieslowski. Ma petite fiche raconte que pour tourner dans ce film, Juliette Binoche refusa la proposition de Steven Spielberg de tourner dans Jurassic Park. Ma foi, je pense qu'elle a bien fait, car quoi qu'on pense de Jurassic Park, eh bien, il est plus sûr que Trois couleurs bleues apportent à la chose cinématographique que Jurassic Park et ses épigones. Ensuite, eh bien, la douce Juliette continuera une carrière tout à fait brillante, puisque on la verra aussi épisodiquement dans Trois couleurs blancs et Trois couleurs rouges, mais on la vit surtout dans le rôle principal, du Hussard sur le toit de Jean-Paul Rappeneau, un très très beau film dans lequel elle rencontra aussi l'un de ses nombreux compagnons, Olivier Martinez, et qui rattrapa le fait que 4 ans plus tard, elle n'avait pas pu être l'interprète principale du Cyrano de Bergerac, du même Jean-Paul Rappeneau. Ensuite, eh bien, on la retrouva en 1996 dans un film américain, ou plutôt anglais, qui contribua là encore à asseoir sa réputation internationale. Le film était adapté d'un roman de Michael Ondaatje qui s'appelait L'homme flambé, mais en français. Mais le roman s'appelait The English Patient et le film s'appelle Le patient anglais. Allez savoir pourquoi. Un film d'Anthony Minghella pour une histoire tout à fait romantique et échevelée quelque part à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une infirmière canadienne, forcément Juliette Binoche, qui soigne un mystérieux patient anglais, vous l'avez compris, porteur d'un mystère horrible qu'on finira évidemment par élucider. Ma foi, le tout est plutôt bienvenu. Le film rencontra un très très grand succès et surtout, il permit à Juliette Binoche d'obtenir l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, puisque le premier rôle était plutôt tenu par Christine Scott Thomas. Cette année-là, en 1997, le film obtint d'ailleurs l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur réalisateur et l'Oscar de la meilleure musique de film. Vous m'aviez vu venir, j'en suis sûr, pour un compositeur, là encore français, cocorico, messieurs, mesdames, en l'espèce Gabriel Yared, qui composa pour Anthony Minghella, avec lequel il entretint une collaboration fructueuse jusqu'à la mort prématurée de ce dernier. Il composa une partition absolument magnifique, dont je vous propose d'écouter un très très bel extrait, The English Patience, dans 24 notes secondes.
Sa-da-lam, sa-da-lam, at kozodjötrelem. Miért nem virágoztál minden fa tetején? Minden fa tetején diófa levelén, hogy szakított volna minden leányos legény.
J'adore ce petit instrument à la fin. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Un extrait de la bande originale du Patient anglais, un film d'Anthony Minghella tourné en 1996. Une magnifique musique de Gabriel Yared, un Oscar bien mérité pour Gabriel Yared. Et aussi un autre Oscar bien mérité pour Juliette Binoche, un grand film romantique. On retrouva, Anthony Minghella retrouva Juliette Binoche et d'ailleurs Gabriel Yared en 2006 pour par effraction Breaking and Entering, un film injustement méconnu dans lequel se fera de ma part en retrouver Jude Law et peut-être Ralph Fiennes, mais je n'ai pas ma petite fiche sous les yeux, donc je suis perdu, et qui était tout à fait différent, beaucoup plus intérieur, mais bienvenue, Anthony Minghella, un réalisateur, je l'ai dit, trop bientôt disparu sur une table d'opération, si je me souviens bien. Pardon de ce petit aparté un peu morbide, nous évoquons et bientôt évoquions, pardonnez-moi, la carrière de Juliette Binoche qui, en 1996, évidemment, était loin d'être terminée, puisqu'on la retrouva, alors du coup je vais égrener quelques titres tout au long des 20 années qui ont suivi, on la retrouva notamment dans le Code inconnu de Michael Haneke, dans le Cachet du même, pour des rôles fort tourmentés, d'ailleurs pour le même personnage. On la retrouva aussi dans le Copie conforme d'Abbas Kiarostami, dans le Cosmopolis de David Cronenberg, ou dans d'autres films étrangers où elle montrait un penchant pour des rôles extrêmement différents. Et puis surtout, alors là, je n'ai jamais compris, on la retrouva aussi dans un film qui rencontra un immense succès, notamment aux États-Unis en 2000, ça s'appelait Le Chocolat, un film de Lasse Hallström où l'on voyait Johnny Depp dans le rôle d'un gitan ou quelque chose de ce genre. Un film mais horrible, c'est absolument nul, je ne comprends pas comment un film pareil ait pu rencontrer un pareil succès, mais Le Chocolat de Chocolate reste, et de bien loin, l'un des films les plus célèbres de Juliette Binoche, qui a su alterner donc des rôles relativement grand public, mainstream dirons-nous, puisqu'on la vit même chez Daniel Thompson, et puis des rôles un peu plus confidentiels, puisqu'on la vit aussi à nouveau chez Jean-Luc Godard, enfin on la vit, elle faisait une voix dans L'Éloge de l'amour en 2001, et puis surtout, elle était l'interprète principale d'un de mes chéris, Bruno Dumont, l'un des plus grands réalisateurs contemporains, puisqu'elle fut en 2013 Camille Claudel dans le film que Bruno Dumont consacra non pas à la carrière de Camille Claudel, mais plutôt à son exil intérieur dans cet asile psychiatrique quelque part dans les environs d'Avignon, si je me souviens bien, bien loin du rôle interprété par Isabelle Adjani aux côtés de Gérard Depardieu, alias Rodin, quelques siècles auparavant. Nous allons nous quitter en écoutant un extrait d'une bande originale, alors là, dans un genre absolument différent, puisque en 2014, soi-disant, Juliette Binoche était au casting du Godzilla de Gareth Edwards, ressuscée américaine du genre. Et en fait, je dis soi-disant, puisque remboursée, elle mourait avant même le début du générique. Alors là, si c'est vraiment pas du foutage de gueule, je vous pousse le cri de Godzilla. Ah ! Voilà, c'était du foutage de gueule en l'espèce pour un film qui, ma foi, était loin d'être dans la grande tenue des Godzilla japonais avec ses acteurs en latex ô combien troublants en train de détruire des immeubles en Lego. J'en ris moi-même. Le seul intérêt du film, c'était évidemment la musique d'Alexandre Desplat. Donc on s'en écoute le générique en conclusion et j'oubliais, Juliette, on t'aime, on t'adore. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you. Ah, bye bye.